Voilà. Alors, nous allons reprendre, mais je vais pas laisser cette diapositive maintenant pendant tout le temps qui reste. Ça va juste occuper l'écran pour rien. Mais je la mets maintenant pour que vous puissiez la voir. Mais de toute façon, vous avez déjà ce petit résumé très, très simple hein, où on voit la division des versets 1 à 20 du chapitre 3. D'abord, les versets 1 à 8 qui nous parlent des faux raisonnements de l'homme pécheur et les versets 9 à 20 où on voit le verdict qui tombe maintenant, la condamnation, le juste jugement de Dieu. Tous les hommes, sans exception, sont coupables. Et c'est cette structure que je vais suivre très simplement maintenant. Alors, je vais arrêter le partage parce que je n'aurai plus besoin de cela. Alors, nous allons procéder exactement de la même façon parce que c'est vrai que c'est assez compliqué comme texte. Et puis, avançons verset par verset. On voit donc dans les versets 1 à 8 les faux raisonnements de l'homme pécheur. C'est comme le dernier pas là, final avant que on prononce le verdict de culpabilité. Paul dit ceci au verset 1, et c'est toujours dans la suite, bien entendu, de la section précédente où on a fait avec des jeux de mots sur circoncision, incirconcision. Paul a voulu montrer la culpabilité du peuple juif. Alors, le peuple juif qui pourtant a tellement reçu, vous vous rappelez ce texte, c'est dans les Romains d'ailleurs, 9, verset 5. De mémoire, où on voit là tous les privilèges en fait du peuple juif, même le Messie, hein, il est juif le Messie, il vient du peuple juif. Eh bien, Paul au verset 1 pose cette question, Romains 3, verset 1. Quel est donc l'avantage du juif ou quel est le bénéfice de la circoncision? Hein, l'avantage, est-ce qu'il y a quelque chose de plus pour le juif, est-ce qu'il y a un bénéfice? Est-ce qu'il y a quelque chose d'utile dans tout cela, dans tout ce qu'il a reçu, en particulier par ce symbole, ce signe de la circoncision? Est-ce qu'il y a un avantage à être juif? Un juif circoncis, dans ce contexte-ci, veut simplement dire qui est sous les alliances abrahamiques et mosaïques. Eh bien, l'apôtre Paul répond dans l'affirmative. Il y a un avantage en réalité lorsqu'il dit au verset 2, il est considérable de toute manière, car premièrement, ils ont été chargés des oracles de Dieu. En disant de toute manière, ça signifie à tous égards et d'une façon très large, le bénéfice est immense, est vraiment immense. C'était un avantage réel pour le peuple juif d'être engagé ou d'avoir été engagé dans de telles alliances avec Yahweh. Et imaginez, Dieu leur a confié la responsabilité de quelque chose et pas n'importe quoi, les oracles de Dieu, c'est-à-dire les paroles que Dieu a communiquées de façon solennelle dans les Écritures. En fait, c'est simplement un synonyme de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Une immense partie de la révélation progressive de Dieu a été confiée au peuple juif. Ils l'ont fait parvenir, hein? Ils l'ont transmise, cette révélation, ils l'ont copiée, et puis voilà, elle est arrivée jusqu'à l'Église. Et c'est vrai que l'Église, par la suite, va se charger de poursuivre, de continuer ce travail de transmission, tout comme le peuple juif aussi l'a continué, mais uniquement avec le Tanakh, c'est-à-dire le canon hébraïque, avec les livres de l'Ancien Testament. Quel privilège ils avaient reçu, mais un grand privilège demandait aussi de grandes responsabilités. Et de toute évidence, avec la déclaration de culpabilité de Paul, les Juifs n'ont pas réussi, enfin, ils n'ont pas atteint les standards ou les normes exigées par les alliances que Dieu leur avait confiées. C'est pourquoi Paul pose une question, en lien avec cela au verset 3. Quoi donc? Ça signifie simplement, qu'arrive-t-il ensuite? Oui, ils ont reçu. Oui, c'est vrai, là, ces choses leur ont été confiées. Mais qu'est-ce qui arrive ensuite? Eh bien, si certains ont été infidèles, leur infidélité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? L'infidélité du peuple juif, c'est le manquement à leurs obligations, les obligations des alliances. Eh bien, parce qu'ils ont manqué à ces obligations, qu'ils n'ont pas obéi en fait à la parole de Dieu, est-ce que cela va annuler dans le sens de rendre la parole de Dieu inutile, rendre la parole de Dieu inefficace et rendre la fidélité de Dieu, c'est-à-dire, c'est un synonyme de promesse, ça. Les promesses de Dieu seront-elles annulées? Et j'aime bien que ce soit le mot fidélité parce que ça met l'accent sur le profond engagement du Seigneur lui-même dans toutes les alliances et les promesses qu'il a faites. Eh bien, la réponse exigée à cette question, même dans le texte grec, c'est non, mais pas du tout. C'est une réponse négative qui est attendue ici. L'infidélité du peuple d'Israël n'a rien changé à la fidélité de Dieu. Et non seulement Paul utilise l'adverbe de négation, mais qui dit que la réponse sera négative, la suite, le verset 4, est encore plus clair avec cette fameuse expression loin de là, ou comme j'aime bien la traduire, pas du tout, pas du tout, mais que Dieu soit vrai et tout homme menteur, selon ce qui est écrit. Afin que tu sois justifié dans tes paroles et tu auras gain de cause quand tu es jugé. Et là, franchement, je vous dis, ce verset-là, il dépasse l'entendement. Il faut vraiment porter attention pour voir de quoi ça parle exactement. Donc, d'abord, Paul répond très, très clairement au fait que il n'y a rien d'atteint dans les promesses de Dieu. Sa fidélité n'est pas atteinte, elle n'est pas amoindrie, pas du tout. Donc, c'est une manière très intense, instantanée, d'exprimer un profond désaccord. Non, pas question. Maintenant, quand Paul dit, mais que Dieu soit vrai, la plupart des versions, ou certaines versions peut-être plus, on peut le dire comme ça, ont rajouté quelque chose pour montrer que, en fait, c'est d'être reconnu comme tel, que Dieu soit reconnu comme tel, c'est-à-dire il est vrai. Il est vrai dans tout ce qu'il fait. Alors, si Dieu fait une promesse et que l'homme n'est pas fidèle, ben, là, ça change rien au fait que Dieu est vrai. Alors, il va accomplir sa parole d'une façon ou d'une autre. Et il va citer le psaume 51, verset 4 ici, afin que tu sois jugé, justifié, pardon, dans tes paroles. Donc, remarquez bien ce qui est dit ici. Dieu soit vrai et tout homme menteur pour que, selon ce qui est écrit, tu sois justifié dans tes paroles. De qui on parle d'être justifié dans ses paroles? Et justifié ici a le sens de, ben, comme dans une cour, hein, recevoir un verdict favorable. C'est comme si on disait, afin qu'on te donne raison, ou afin, on veut prouver que tu as raison. Et les paroles ici, ce sont les paroles de Dieu. Alors, si ce sont les paroles de Dieu et qu'on dit, afin que tu sois justifié dans tes paroles, on parle de Dieu ici. C'est Dieu qui sera justifié dans ses paroles. C'est Dieu qui aura gain de cause quand Dieu est jugé. Mais on se dit, c'est pas possible. Et gain de cause, je trouve ça bien ainsi parce que, en fait, on est dans un contexte de procès. C'est comme une victoire, finalement, une déclaration d'innocence parfaite. Écoutez, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, dans ce verset, c'est comme si Paul disait que les hommes accusaient Dieu et le déclarait coupable dans ce passage. Et ça, c'est comme le point culminant de la culpabilité de l'homme, de son arrogance de pécheur, où il dit, c'est pas nous le problème, c'est Dieu le problème, c'est lui qui avait un problème. Rappelez-vous ce que Paul dit, est-ce que ça va montrer que Dieu, lui, est pas fidèle à ces choses? Mais pas du tout, au contraire. Alors, même si on jugeait Dieu, le Seigneur sera justifié et les hommes seront condamnés. C'est un verset vraiment, mais vraiment étonnant que Paul utilise ici, mais c'est une image, une métaphore qui a pour but justement de provoquer une réaction. Tu vois, tu oserais accuser Dieu? Eh bien, il sera justifié dans ses paroles parce que lui est vrai et toi, tu es le menteur. C'est toi le problème, c'est pas Dieu, tu vois. Et il aura gain de cause. Tu auras beau vouloir juger Dieu, il aura gain de cause. Moi, je pense que j'aurais cité ce verset tout fort dans le tribunal qu'on a fait, où on a fait un jugement apparemment à Dieu suite à la Deuxième Guerre mondiale. Il me semble qu'il y aurait quelqu'un qui aurait, je sais pas si ça a été fait, hein, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais on se lève là, puis on dit, hey, n'avez-vous jamais lu Romains 3, verset 4? Dieu est déclaré justifié, c'est vous les coupables en bout de ligne. Ben, c'est à peu près ce que ce verset-là fait maintenant. Mais l'homme est tellement arrogant que, regardez, c'est pas pour rien que j'ai donné comme titre Les faux raisonnements de l'homme pécheur. Regardez au verset 5 à quel point c'est terrible et tordu l'esprit d'un homme pécheur qui refuse d'admettre sa culpabilité et qui oserait même pointer vers Dieu. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Et dans le sens, que faut-il en conclure? Hein? Le Dieu qui inflige la colère est-il injuste? Et l'apôtre Paul, j'imagine qu'il parlait avec un ton semblable, mais tout de suite après, il y a une parenthèse et Paul s'empresse de dire, attention, hein, c'est une métaphore, c'est un exemple humain. Je dis cela selon l'homme, je parle selon l'homme, c'est-à-dire d'un point de vue purement humain et pécheur. Ça met l'accent, en fait, sur l'infériorité du raisonnement humain en comparaison avec la grande sagesse de Dieu, tu vois. Est-ce que notre injustice qui met la justice de Dieu en valeur, c'est un peu comme, ben, nous allons pécher, et parce que nous allons pécher, ça va aider Dieu à montrer sa grâce. Quel raisonnement stupide des pécheurs, c'est pas possible, hein? Êtes-vous choqués comme moi? C'est fou de penser comme ça, mais ça, c'est notre cœur, frères et sœurs. C'est notre cœur avant de connaître le Seigneur, avant qu'il se révèle à nous. Alors, l'apôtre Paul répond à nouveau avec la masse. Le coup de marteau très fort, là, pas du tout. Verset 6, autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? C'est-à-dire, bien, si Dieu était coupable de quoi que ce soit, quel pouvoir aurait-il de plus pour juger le monde? Alors, Paul continue dans ce faux raisonnement et dit au verset 7, car si la vérité de Dieu, par mon mensonge, a abondé pour sa gloire, pourquoi moi aussi suis-je encore jugé comme pécheur? Quel raisonnement trompeur et ridicule quelque part, tu vois. C'est comme si, ben voilà, je donne, enfin, Dieu devrait me remercier, quoi, parce que mon injustice lui donne l'occasion de manifester sa justice, mon mensonge lui donne l'occasion de manifester sa vérité, et puis voilà, mon péché lui donne l'occasion de manifester sa grâce. Qu'est-ce qu'il aurait à dire de plus, tu vois? Et pourquoi pas, tant qu'à faire, rajouter, comme le verset 8 dit, et pourquoi ne pas dire, comme nous sommes calomniés et que certains prétendent que nous le disons, ça c'est une parenthèse que Paul dit, faisons les choses mauvaises afin que viennent les bonnes choses. Terrible, c'est pas possible. Mais à la fin, hein, leur jugement est mérité. Et là, le verdict tombe. Là, le verdict tombe. Tous les hommes, sans exception, sont coupables. Et là, frères et sœurs, je veux juste prendre une toute petite pause avant de m'énerver dans les versets suivants, mais je veux prendre une toute petite pause ici pour dire, enfin, que Dieu nous donne un esprit de reconnaissance parce que, tu sais, c'est là on est ébahi, on est ébranlé, on est abasourdi par le raisonnement de l'homme, jusqu'où il peut aller. Mes frères et sœurs, on était perdus dans ces faux raisonnements aussi. Peut-être qu'on n'allait pas dans ce sens, peut-être qu'on ne s'était pas à ce point-là. Là, c'est vrai que ça, c'est comme le point culminant du faux raisonnement de l'homme pécheur. Mais quand même, tu sais, même comme chrétien, quand les choses ne tournent pas nécessairement comme on veut, c'est quoi le premier réflexe du chrétien? Même du chrétien? Hey, Dieu, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu permets ceci? Pourquoi tu permets cela? Pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi Dieu n'agit pas? Frères et sœurs, on est pareil en quelque part. Et cette réaction-là, qui est une action ou une parole accusatrice, hein, c'est comme, Seigneur, tu ne devais pas faire ça. Tu ne devais pas agir comme ça avec moi. Pourquoi tu fais comme ça? Tu vois, voilà, je me dis, il y a vraiment en nous cette racine de l'homme pécheur, incrédule et stupide qui se tourne contre son Créateur et l'accuse. Eh bien, moi, je suis tellement reconnaissant, Seigneur, de m'avoir sauvé de m'avoir dégagé de ce faux raisonnement. Et puis maintenant, je lui demande pardon s'il se trouve le moindre pourquoi accusateur dans mon cœur contre lui. Je lui demande pardon et je demande à Dieu, dans sa grâce, de m'aider à réaliser à quel point je me trompe moi-même dans mes faux raisonnements et à quel point j'ai besoin encore aujourd'hui de sa grâce qui restaure et qui pardonne. Lisons maintenant ces versets 9 à 20 et encore, je vous propose une lecture plutôt verset par verset pour mettre l'accent sur l'impact des mots et aussi le langage figuré hein, qui augmente beaucoup au fur et à mesure que nous avançons dans ce passage. Quoi donc, verset 9? C'est-à-dire, que devons-nous conclure? Sommes-nous plus excellents? Et là, le texte grec n'est pas facile. La réponse littérale serait pas tout à fait. Tu dis, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelons-nous qu'il a demandé, est-ce que le Juif a un avantage? Et Paul a dit, oui, il en a un avantage. Ça, il n'y a pas de doute, mais il se trompe lui aussi dans ses faux raisonnements. Alors, sommes-nous plus excellents? On a un avantage, mais pas tout à fait. Pourquoi? Et je crois que cette réponse-là, pas tout à fait, peut avoir le sens de il est vrai que le Juif a un avantage et qu'il est grand parce qu'il a reçu la révélation de Dieu, mais pour ce qui concerne le péché, par contre, il est autant coupable que le grec. Et je crois que c'est l'explication de la fin du verset. Pas tout à fait, parce que nous avons déjà accusé Juifs, de même que Grecs, d'être tous sous le péché, c'est-à-dire sous la condamnation du péché. Alors, oui, il y a un certain avantage, mais finalement, c'est une pleine déclaration de culpabilité. Et tout cela est même basé sur des textes des psaumes, psaume 14 et psaume 53, selon ce qu'il est écrit au verset 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Une personne juste, c'est une personne innocente. Qui est non coupable devant Dieu, eh bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On parle bien entendu de l'homme naturel en lui-même. Il y a des personnes justes. C'est parce qu'elles ont été justifiées par quelqu'un. C'est notre Seigneur qui nous a justifiés autrement. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Et là, franchement, regardez bien ce qui suit, verset 11. Il n'y a personne qui comprenne. Le verbe comprendre n'est pas uniquement l'aspect rationnel. C'est le fait de saisir quelque chose d'un point de vue spirituel. Autrement dit, comprendre ici, c'est la compréhension spirituelle. Il n'y a personne qui peut comprendre spirituellement, correctement, spirituellement les choses, parce qu'il n'y a personne aussi qui recherche Dieu, c'est-à-dire qui peut trouver Dieu en faisant les efforts qui sont requis, parce que personne n'arrive à le faire. Ça ne veut pas dire que les gens ne cherchent pas Dieu du tout dans le monde. Beaucoup de religieux cherchent Dieu, mais dans les faits, l'homme religieux cherche à se justifier lui-même devant Dieu. Alors il cherche Dieu, mais pour se présenter devant lui avec sa religion, avec ses bonnes œuvres, avec son éducation et sa conscience, avec ses trucs à lui. Alors, selon le point de vue de Dieu, Dieu dit, il n'y a personne qui me cherche. Et en fait, ce n'est pas possible de chercher vraiment Dieu tant et aussi longtemps que le cœur n'est pas attiré par Dieu. Et ça, le Seigneur Jésus a mis ça très, très clair dans l'Évangile selon Jean. Verset 12. Tous, sans exception, ils se sont éloignés. Ensemble, ils sont tous devenus inutiles. C'est très littéral comme traduction. Il n'y a personne qui fait la bienfaisance. Il n'y en a pas même un seul. La bienfaisance ici, ce n'est pas le fait que personne ne fait rien de bien, c'est que personne ne peut faire un bien qui peut l'amener à être justifié devant Dieu. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne. Écoutez, on pourrait réfléchir comme on voudrait, tourner la crêpe dans tous les sens, mais on va arriver au même constat, celui de Dieu. Il n'y a rien à faire. Absolument rien à faire. Même malgré les quelques actes de bienfaisance ou alors l'immensité de toutes les belles œuvres qu'on peut faire, tout ça est souillé par le péché. Donc, constat, pas même un seul. Verset 13, l'apôtre Paul entre dans une série de démonstrations, de preuves contextuelles à son époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, que les personnes sont pleinement coupables. Ça se voit dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils pensent. C'est un peu l'objet de ces versets-là. Alors, dans un langage très figuré, hein, verset 13, leur gorge est un tombeau étant ouvert. Et j'aime traduire le participe tel qu'il est en grec parce que ça dénote et ça met l'accent sur la continuité de l'action. Une gorge qui est un tombeau ouvert, c'est un discours qui est corrompu. Le discours est corrompu. Même le beau discours religieux est corrompu. Il trompe avec la langue, c'est un discours abusif. En fait, toutes les images qui sont là, c'est un discours. Autrement dit, c'est ce que l'homme dit, et puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, on comprend très bien que ça justifie et ça prouve la culpabilité de l'homme. Alors, la gorge au tombeau ouvert, c'est un discours corrompu. Tromper avec la langue, c'est un discours abusif. Et le venin d'aspic sous les lèvres, vous voyez, c'est toujours en lien avec la bouche. Eh bien, c'est un discours destructeur, comme le venin peut être destructeur. Discours corrompu, discours abusif, discours destructeur, ce que l'homme dit qui vient de son cœur, c'est ce qu'il fait. Eh bien, c'est ce qu'on voit dans ce verset. Pour aller encore plus loin, leur bouche est pleine. Et quand on dit pleine, vous savez, si j'ouvre la bouche tout grand, ah, vous ne verrez pas des malédictions et de l'amertume. C'est simplement une façon de dire. Une manière généralisée de parler. Quand on dit la bouche est pleine, ça veut simplement dire c'est leur façon générale de parler. Et ils parlent de quoi? De malédiction, de mal qu'on souhaite aux autres en particulier, et d'amertume avec des sentiments de colère et d'animosité. Et tout ça part du cœur et sort par la bouche. C'est toujours la même image. Ensuite, on passe aux actions. Leurs pieds, verset 15, sont rapides pour répandre le sang. Quand on parle des pieds, on parle d'une personne, hein? Ce n'est pas des pieds qui s'en vont tout seuls. C'est une personne, en fait. Et donc, leurs pieds, c'est-à-dire une personne dans ses actions, dans ses décisions, elle est rapide, un sentiment d'impatience, elle est empressée pour commettre le meurtre. Répandre le sang, c'est commettre un meurtre. Alors, ce que Paul dit ici, c'est que l'homme pécheur, il s'empresse, il peut même se dépêcher pour tuer quelqu'un. Et même si on n'est pas tous des meurtriers en action, on a tous cette capacité de tuer parce que c'est dans le cœur pécheur, c'est dans l'homme. Bien entendu, beaucoup de choses peuvent empêcher la réalisation de l'acte, mais en utilisant l'exemple le plus sévère, le plus grave de toutes les transgressions de la loi mosaïque, commettre un meurtre. Eh bien, Paul fait simplement de montrer que l'homme est coupable. La destruction et la misère sont dans leur voie. C'est dans le verset 16. La ruine. Et la misère ici, le terme utilisé dans le texte original parle, c'est quand même un mot qui parlerait de pauvreté extrême. Donc, c'est vraiment, il n'y a plus rien. C'est la ruine totale. C'est la pauvreté extrême dans leur voie, c'est-à-dire leur manière de vivre. Quand le mot voie ou traduit par chemin ou par route est utilisé au sens figuré, c'est toujours dans le Nouveau Testament pour parler d'une manière de vivre. Et c'est même vrai dans les livres poétiques de l'Ancien Testament, aussi les psaumes, entre autres. Comment c'est comme ça? Parce qu'ils n'ont pas connu la voie de la paix, c'est-à-dire la manière de vivre, la voie, manière de vivre harmonieuse et paisible. Ils ne sont pas arrivés à cette connaissance. Ils n'ont pas atteint ce niveau de vie. C'est pas possible parce qu'ils sont pécheurs. Alors, tu vois que c'est assez spécial parce que même les personnes les plus douces, les plus gentilles qui soient, elles peuvent péter un plomb, hein? Même les personnes les plus douces, les plus aimables, écoute-tu, tu les écrases un peu contre un mur hein, ou tu leur fais quelque chose qui ne joue pas, elles peuvent se mettre en colère hein, et puis dire des paroles qui ne devraient pas être dites ou poser des gestes regrettables. Parce que c'est dans le cœur humain, c'est ça. On ne connaît pas la voie de la paix. Et pour aller encore plus en profondeur, où je fais comme le signe, ça va de plus en plus loin, en fait. Il n'y a pas de crainte devant leurs yeux. Ça explique tout en bout de ligne parce que c'est le profond respect qui nous amène à chercher à lui être agréable qui est impossible parce qu'on est des pécheurs. Même l'homme qui cherche Dieu, qui veut vraiment, tu vois, si on peut dire ainsi, Ah ben, tout est marqué par le péché dans ce qu'il fait. Alors, même son approche, elle est incorrecte parce qu'il n'y a pas la véritable révérence de Dieu devant ses yeux, c'est-à-dire dans sa vision du monde, dans la façon de voir les choses. Autrement, il cesserait tout de suite de faire des œuvres. La personne qui cherche vraiment Dieu, elle cesserait tout de suite ses œuvres. Elle dirait, non, non, mais c'est pas possible. Tout est sale. Tout ce qui sort de mes mains est souillé, quoi, de mon cœur. Et c'est pourquoi on ne cherche pas selon Dieu. C'est pas possible. Alors, finalement, la loi qui contribue à montrer la culpabilité de l'homme, qu'est-ce qu'elle dit? Versets 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont dans la loi, littéralement, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. Parce qu'aucune chair, aucune personne, aucun homme ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car la pleine connaissance du péché vient par la loi. Alors, ce que Paul dit à la fin de son constat, et puis après on entre dans un autre, tout autre bloc inattendu, complètement inattendu, le bloc de la grâce de Dieu, de la justification gratuite qui s'en vient. Avec toute cette déclaration de culpabilité, on serait attendu que oh, c'est fini, hein? Mais quelle section après? Mais voilà, Paul termine en disant que finalement, la loi, la parole de Dieu, eh bien, elle dit à tous ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire les Juifs qui sont sous les alliances de la loi mosaïque, que non seulement eux, mais tous les hommes sont coupables et donc la bouche doit être fermée. La bouche fermée, c'est tu ne peux rien faire pour te justifier, tu ne peux rien dire parce que ce n'est pas possible d'être justifié par ses propres efforts, par les œuvres de la loi. Parce qu'en fait, celui qui cherche à obéir à la loi et qui cherche à faire ce qui est bien, eh bien, il ne réussit pas à le faire et tout ce que la loi et le bien lui enseignent, c'est qu'il ne réussit pas à le faire. En fait, la loi, c'est un excellent pédagogue. Même le concept de faire des bonnes œuvres est un excellent pédagogue parce qu'il nous enseigne qu'on est incapable de faire de bonnes œuvres. Tu vois, bien entendu, je parle de l'homme pécheur qui n'a pas encore été justifié. Maintenant, par l'Esprit qui est en nous, par la nouvelle nature, par la prière et la parole de Dieu et la communion avec Dieu et avec son peuple, nous avons maintenant la possibilité, la capacité de pouvoir accomplir des choses qui sont vraiment agréables à Dieu. Mais autrement, avant, dans notre état de pécheur, c'était juste impossible, rien à faire. Eh bien voilà, on ne pouvait pas être justifié, c'est-à-dire libéré de toute accusation. On ne pouvait pas être déclaré juste par tout effort qui serait venu de nous-mêmes. Voilà où se termine cette section vraiment importante. Alors, je suis maintenant disponible pour quelques questions s'il y en a. Et puis voilà, j'ai bien hâte qu'on entre dans la section suivante parce que elle va faire du bien avec tout ce coup de masse qu'on a reçu là, avec la culpabilité de l'homme. Voilà, vas-y, Nathanaël.
Merci Gilles. On va revenir un tout petit peu en arrière à la fin du chapitre 2. Il y a plusieurs questions qui concernent cette section de la circoncision et de l'incirconcision. Notamment une question qui me paraît intéressante là. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se considérer comme un vrai juif par la foi?
Oui, excusez s'il y a un petit son d'arrière-plan, j'ai ouvert mon logo, ça a fait une petite musique. Oui, dans une mesure, dans la mesure où l'Écriture emploie d'une façon métaphorique ce terme-là, mais le contexte est très clair. Mais maintenant, ce n'est pas notre identité. Le texte ne nous dit pas qu'on doit chercher à s'identifier comme de vrais juifs. S'il vous plaît, faites pas ça. Ça va juste semer tellement de confusion partout dans le monde. Mais c'est pas notre identité. Notre identité, c'est d'être chrétien, donc des disciples de Christ, des membres du corps de l'Église. Ça, c'est notre identité. Maintenant, dans un sens métaphorique, on est défini, on est présenté pour comprendre certains aspects comme étant de vrais juifs, quoi. Mais c'est uniquement une métaphore pour exprimer une vérité de ce que nous sommes devenus. Alors, pas une identité, s'il vous plaît. Il ne faut pas commencer à se dire, nous, on est des vrais juifs, finalement.
Et puis, on parle d'incirconcision et de circoncision, ce qui concernait plutôt les hommes. Et puis, une des personnes nous écrit, et les femmes.
Tu parles d'une question, mais je ne sais même pas quoi répondre. Est-ce que je peux y réfléchir? Dans le sens où, ce n'est pas une question ridicule, hein? C'est une bonne question, elle est justifiée, je pense, elle peut être posée, mais waouh, comment je vais répondre à ça? Écoute, je dirais tout de suite, de toute façon, que le symbole de l'alliance, il n'y avait pas besoin d'être chez l'homme et la femme, parce que l'homme englobe toute la nation juive. C'est un peu dans ce mode-là que Dieu donne le symbole de la circoncision. Alors, la femme est bien sûr appelée de la même manière à respecter les clauses de l'alliance mosaïque, étant sous l'alliance de la loi mosaïque. Mais le symbole de cet engagement n'était pas forcément nécessaire, bien entendu, ou tout autre symbole, je devrais dire, parce que c'est évident que ça ne pouvait pas s'appliquer aux femmes, mais il n'y a pas rien qui semble contribuer, mais je devrais peut-être faire des recherches. C'est une question. OK.
Merci pour cette partie de réponse, on dira. Et puis concernant le verset, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Qu'en est-il du cas particulier des enfants n'ayant pas encore la possibilité de comprendre l'Évangile?
Ils ne sont pas sauvés. Moi, je pense qu'ils sont sauvés, mais pas sur la base de justice en propre, mais plutôt d'une justice imputée par pure grâce du Seigneur, justement parce que la démonstration de la culpabilité est faite quelque part à travers les trois témoins dont on a parlé. Témoin de la connaissance, de la création d'abord, de la conscience et de la connaissance. Et là, on ne peut pas se lancer dans un débat à savoir, oui, mais c'est à quel âge qu'on prend conscience des choses et que ça, Dieu sait lui-même tout cela. Mais on peut avoir et mettre notre confiance en Dieu que pour ce qui concerne les poupons, par exemple, les pauvres bébés qui sont mis à mort par l'avortement ou des choses comme ça, eh bien, moi, je me réconforte dans un Dieu qui applique sa grâce et qui met au bénéfice de l'œuvre de Christ ses enfants. Mais je dois admettre que l'Écriture est limitée dans ce qu'elle dit par rapport à cela, mais avec certains passages qui sont mentionnés. Je me repose en Dieu et puis je crois en un Dieu juste et je laisse entre ses mains ce qui me dépasse et que je ne peux pas expliquer davantage.
Ouais. Merci pour cette sage réponse. Avec ça, moi, j'ai terminé les principales questions. Donc, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Gilles, on va laisser la parole à Mathias.
Non, moi, ça me va. Merci juste d'avoir été là à nouveau, puis merci de tolérer mon rythme terrible et puis mon accent, et puis tout, et puis tout.
Voilà, excellente soirée à chacun. Pour ceux qui doivent rentrer chez eux, bonne route. Et puis pour les autres, bonne nuit, bon après-midi pour les Québécois.
Merci, au revoir.